Au pays des léopards, le ballon est roi. Et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Bien, merci d'être à l'écoute du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Et voilà, et c'est le premier numéro de cette année 2017. Nos meilleurs vœux à tous les fidèles auditeurs de cette émission. Nous allons parler du banditisme urbain. Vous savez, ce banditisme appelé communément Kuluna refait surface dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Munis des machettes, des jeunes gens dépouillent les paisibles citoyens de leurs téléphones et autres biens de valeur. Organisés en bande, certains s'introduisent même dans des maisons pour aller voler. Alors, que dit la loi congolaise à propos du banditisme urbain? Où et comment porter plainte si vous êtes victime? Maître Zachary Kendabingou Moulangala, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, et l'invité d'Okapi Service. Maître Zachary, la première question est de savoir, que dit la loi à propos de ce phénomène du banditisme urbain appelé communément phénomène Kuluna?
Bien, merci monsieur le journaliste, monsieur l'animateur. Si on parle du banditisme urbain, c'est trop vaste l'expression et ça ne trouve pas d'appui, ça ne trouve pas l'assise en droit pénal congolais, dans l'arsenal juridique congolais. Il n'y a pas l'expression, il n'y a pas une infraction qui s'appelle banditisme urbain. Mais nous avons essayé de voir que c'est une assertion qui englobe plusieurs infractions à son sein. Dans ce banditisme, ces phénomènes qu'on appelle Kuluna, ils font de l'extorsion, ils forment des bandes de malfaiteurs, il y a même des coups et blessures volontaires. Donc il y a plusieurs infractions. Si on peut tenter de parler de toutes ces infractions, une à une, de voir de quelle manière ces jeunes gens opèrent ou ces malfrats opèrent au travers des avenues, des communes entières et comment ils se comportent vis-à-vis de la population. Mais banditisme n'est pas une infraction. L'infraction se trouve plutôt dans les actes et faits qu'ils posent chaque jour, soit l'extorsion, soit ils ont formé des bandes de malfrats, soit c'est aussi les coups et blessures volontaires.
Alors, ils opèrent souvent avec des munis des machettes et ils arrivent souvent à blesser les paisibles citoyens. À ce moment-là, on parle des coups et blessures.
Non, c'est ce que je disais. Quand ils opèrent avec des machettes, il faudrait maintenant voir, il faudrait avoir les éléments. Est-ce qu'ils parlent, les machettes, qu'ils arrivent à se faire remettre des fois, là, ils sont dans l'extorsion, qui est prévu par l'article 84 de notre code pénal livre 2. Alors, si avec ces machettes, ils tapent les gens, ils blessent les gens, et ça, ils tombent dans les infractions de coups et blessures volontaires. Mais s'ils font une association, ça peut être un individu qui se met en cours de route et commence à terroriser les passants. Mais s'ils sont nombreux, qu'ils ont constitué un groupe comme ça, qui pour attenter à la personne et aux propriétés, à ce moment-là, ils forment une bande de malfaiteurs. Ça, c'est aussi une infraction à part. Donc, ça ressort au moins trois sortes d'infractions qu'il faut débattre une à une. S'il faut parler d'extorsion.
Commençons par l'extorsion.
L'extorsion, vous prenez un individu, il sort, ou deux, ils sortent, ils s'improvisent avec des machettes, ils sont là-bas, ils vous violent. Puisque l'extorsion, pas vous violer, l'extorsion dit ceci, c'est le fait de se faire remettre une chose appartenant à une chose par la force ou la violence. Donc l'extorsion, j'ai dit, c'est le fait de se remettre de force une chose. J'ai dit bien de force une chose appartenant à autrui. Il se fait remettre.
Il y a de force.
Il se fait remettre. Donc le propriétaire lui-même consent à vous donner.
À vous donner.
Et puisque vous avez utilisé la force, vous avez utilisé la violence. Et là, la loi punit de 5 à 20 ans de servitude pénale de prison, avec une amende qui ne dépassera pas, je crois, 200 000 francs congolais, je me rappelle pas encore bien en tête. Mais la peine, c'est celle-là, c'est de 5 à 20 ans de servitude pénale principale. Donc, des prisons fermes. Donc, ça, c'est pour l'extorsion.
Ils arrachent souvent le téléphone, donner tout ce que vous avez dans les poches.
S'ils l'ont fait par menace. Hein, à ce moment-là, s'ils l'ont fait par menace, par violence, à ce moment-là, ils tombent dans ce coup-là d'extorsion. Mais attention, puisque dans, il y a aussi les, il y a aussi l'extorsion, il y a aussi l'escroquerie. Dans l'escroquerie aussi, on utilise la violence, on utilise la violence, on utilise les menaces et les ruses. Mais là, ce sont des ruses. Là, on ne se fait pas remettre. Là, il confisque ce qu'il se peut. Ici, le propriétaire consent, il vous donne par le fait de votre menace, par le fait de votre violence. Mmh. Voilà. Alors, tandis que quand ils sont nombreux, leur but, ils ont formé une association de toujours et de tout temps, qu'il soit permanente ou pas. Ils disent, nous formons une association pour attenter aux personnes et aux propriétés. Le fait seulement d'avoir formé ce groupe-là, c'est déjà une infraction. Alors maintenant, dans ce sein de ce groupement, il y a deux gens, il y a le provocateur, celui qui a provoqué le groupe d'association, il y a le chef, il y a ceux qui auront exercé une certaine fonction au sein de ce groupe, là ils sont punis de peine de mort. Et tout autre individu, je crois, je suis déjà à l'article 158, c'était l'article 156, 157, 158. À l'article 158, tout autre individu qui aura participé, qui aura donné des armes, des munitions, qui aura apporté une assistance à cette bande-là, est aussi puni de mort. Tandis que de coups et blessures volontaires, les individus de Koulouna, ils sortent avec des machettes, ils vous trouvent encore de route, sans rien faire. Ils peuvent vous donner des coups de machette, ils peuvent vous donner des coups, sans rien vous prendre. Sans rien prendre, ils vous donnent seulement des coups, ils vous blessent, ils vous jettent par terre.
Et ils disparaissent dans la nature.
Ils disparaissent. Ils sont dans des coups. Et ça, c'est l'article 46 de notre code pénal. Maintenant, à cet article, il y a le deuxième alinéa qui dit, si c'est prémédité. Donc, on dit, nous, monsieur, moi, aujourd'hui, Maître Zachary Kenda ne va pas passer ici. Je vais lui faire du mal. Il prémédite déjà, avant de venir m'attaquer. Parce qu'il y a deux coups qu'il a donné comme ça, sans préméditation. Et s'il prémédite déjà, et là, à ce moment-là, il tombe dans la condamnation de 6 mois à 2 ans de prison. Or, sans préméditation, c'est de 8 jours à 6 mois. Avec l'amende de 25 à 100 francs, à 200 francs. Oui. Tandis qu'avec préméditation, c'est l'amende de 50 à 500 francs. Alors, si par ce coup-là, j'arrive à tomber malade, à perdre un sang, à perdre un organe, à perdre même mon travail permanent personnel, à ce moment-là, la peine devient de 2 à 5 ans de servitude pénale principale. Alors, si à la suite de ces coups et blessures volontaires, il n'avait pas l'intention de me donner la mort, mais en me donnant ce coup-là, tel est le cas qui arrive.
La mort est arrivée, oui.
Voilà, la mort arrive. À ce moment-là, c'est de 5 à 20 ans de servitude pénale avec une amende qui ne dépassera pas 2000 ou 5000 francs.
Franck.
Voilà. Donc, c'est à peu près, il faut qu'on y aille maintenant mollo pour expliquer pour un tel camp, qu'est-ce que le Koulou a fait pour que les gens comprennent. Il faudrait que les gens comprennent quand ils vont commencer à poser des questions, qu'ils sommes en train de parler du banditisme urbain. Baptisme urbain, s'il faut le comprendre, dans les actes que les gens posent, nous ressortons au moins trois infractions. On peut même aller au-delà. Vous avez parlé ici de vol qui rentre dans des maisons. Alors, on parlerait même de vol et de vol qualifié, puisque quand ils le font la nuit. Quand ils le font la nuit, c'est déjà le vol qualifié. Quand ils le font la journée, ils entrent dans vos maisons, ils volent. Et le vol, c'est la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. À ce moment-là, c'est plusieurs infractions qu'ils commettent, selon ce qu'il est arrêté, selon les circonstances dans lesquelles on va les trouver, qu'on va savoir c'est quelle infraction il venait de commettre, est-ce qu'il a commis les 2, les 3, les 4, et à ce moment-là, on va lui appliquer la peine qu'il faut.
Voilà. Phénomène Koulouna, on parle du banditisme urbain, ce phénomène qui refait surface à Kinshasa, dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Nous en parlons avec Maître Zachary Kenda. Il dit dans ce phénomène, il y a plusieurs infractions qu'on peut relever. Des questions et préoccupations, appelez-nous au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Nous parlons du banditisme urbain, appelé communément un phénomène Koulouna. Et notre invité nous a dit qu'il y a plusieurs infractions qui sont commises par ces bandits. Malonga nous appelle de Bandonville. Nous allons recueillir à présent vos questions et préoccupations. Malonga, vous êtes à Bandonville. Bonjour.
Oui, bonjour Jody, meilleurs vœux, bonne année à notre radio Okapi.
Merci.
La radio de la paix.
Merci, nos meilleurs vœux. Malonga, quelle est votre question?
Ok, ma question, en tout cas, je suis surpris par la réaction de notre invité. De dire que, bon, je vais expliquer ce qu'il a dit de ma manière. Il a dit que un bandit est bandit s'il fait les actes de banditisme. La synthèse de ce que moi j'ai entendu de ses propos. Alors moi je vois que c'est ça, c'est faire accentuer le banditisme. Vous voyez, j'ai un peu d'histoire de Kinshasa. Le Kouloun aujourd'hui, le mot Kouloun s'est évolué. Mais on a commencé par des chègues, par des ceci, cela, ceci, cela, ceci. En négligeant ça. Non, chègue, on va le condamner s'il fait l'acte de chègue. Mais, aujourd'hui c'est Kouloun. Demain, ils auront autre dénomination. Ce que moi je vais demander à notre invité. Vraiment, en tout cas, il faut bien rectifier cette loi que vous venez de nous expliquer là-bas. Si on voit déjà, on suspecte déjà que celui-ci est un bandit, ou bien est un voleur, ou bien est un malfaiteur, s'il vous plaît. Et si on attaque qu'il affiche cet acte-là, en tout cas, on fait grandir le fait. Il va intoxiquer, il va initier les autres pour être comme lui. Alors, je vois seulement ceci. Si on suspecte quelqu'un dans un quartier, ou bien dans une maison, ou bien dans un pays, il faut l'arrêter. Et il faut l'intimider pour anéantir ce mouvement. Mais si on entend, avant de l'arrêter, il faut qu'on entend qu'il affiche d'abord cet acte-là. En tout cas, messieurs, et jeudi, on sera un peu plus loin dans un pays de Kouloun.
D'accord, merci. Merci Malonga. Maître, qu'est-ce que vous voulez dire?
Bon, vraiment, je n'ai pas compris notre auditeur et ce qu'il a dit. La question n'est même pas, il n'y a même pas une question. Je n'ai rien pigé en tout cas. Mais je vais faire un effort de dire une chose, il dit qu'on modifie la loi. Mais ceux qui modifient la loi, ce ne sont pas des avocats qui viennent parler dans cette émission. C'est le Parlement, ce sont des députés. Il faudrait arriver, M. Malonga, il faudrait sensibiliser votre contrée que quand il y a des élections, vous devez élire les véritables hommes qui soient populaires chez vous, capables de prendre en compte vos désidératas au Parlement une fois élus comme députés. Je l'ai dit une fois ici que notre arsenal juridique, notre code pénal est trop faible avec des peines. Vous vous souviendrez, monsieur le journaliste, vous vous souviendrez, je l'ai dit une fois, et je le répète encore, c'est trop faible, avec des peines qui s'amusent, avec des peines auxquelles même on n'atteint même pas. C'est rare, je suis avocat plusieurs années, dizaines d'années, c'est rare d'avoir entendu qu'on a condamné à 20 ans, non. C'est un code pénal trop léger qui n'est pas de rigueur et qu'on n'applique même pas la justice impartiale, vous connaissez, dans notre pays. Mais s'il faut vous rejoindre, on ne peut pas prédire les événements. Ça doit arriver, c'est pour cela qu'il y a la loi. La loi, c'est pour prévenir qu'au cas où on ferait tel acte ou poserait tel acte ou tel autre, qu'on puisse vous sanctionner. On ne peut pas refuser que les actes se commettent. Ça doit se commettre dans les hommes. C'est dans les hommes que naissent tous ces actes-là. Et l'homme est toujours ce qu'il est. Et quoi qu'il en soit, quel que soit le genre de loi, même aux États-Unis, on applique la peine de mort. Il y a toujours des brigands. Il y a toujours des infractions qui se commettent au jour le lendemain.
Bien, Vadamou nous appelle de Mahagi. Bonjour.
Oui, bonjour, la radio Kassi. Je réponds à vous, je me retrouve à Dame André. Je voudrais demander à l'évident, qu'est-ce que la loi prévoit qu'un agent de l'État qui traite dans les réseaux de mafia avec le Kouloun, car dit-on que dans toutes les sociétés, ce sont les grands coupables qui sont chargés à condamner les petits de l'État. Nous avons constaté que presque partout dans ce monde ici, vous allez trouver que les autorités-là, tel qu'un commandant d'un policier, lui, il maltraite les gens, même il tue les gens beaucoup. Alors, qu'est-ce que la loi prévoit pour de telles catégories de gens-là?
D'accord.
Il traite avec des Kouloun-là à coulisses.
D'accord.
Ce sont ceux-là qui donnent même les armes pour les Kouloun-là pour aller en mission. Je voudrais demander qu'est-ce que la loi prévoit pour ces gens-là.
Bien, merci. Alors, il parle de certains commandants de la police qui sont en complicité et en connivence avec ces Kouloun.
Oui, notre Vadam, on doit comprendre, j'ai parlé de l'association des malfaiteurs. Mmh. L'association des malfaiteurs, je dis à l'article 158, et que tout celui qui participe ou qui appartient à ces groupes, à cette bande, et qui aura fourni les armes, les munitions, ils ont une peine de mort. même si c'est un militaire. Alors, si, quand il y a un militaire et des civils, à ce moment-là, les militaires emportent tous les civils vers les juridictions militaires. Et les civils qui vont opérer avec les policiers, qui vont opérer avec les militaires, seront jugés par les juridictions militaires. On va, les militaires, là, on va parler de dissipation de munitions, et les civils, on va mettre peut-être incitation des militaires à commettre les faits non prévus par la loi, et on va retenir beaucoup d'infractions, peut-être dissipation de munitions, abandon des postes, tout ça, et il va encourir encore la peine de mort, et là, c'est très, très sévère chez les militaires, et j'ai toujours préféré que la loi soit ainsi, et puisque chez eux, ils plaident dès qu'on commence l'audience jusqu'au prononcé, le même jour. Donc, c'est cela. Alors, si c'est un civil qui a porté des armes, il est dans la bande de manifestations, dans l'association de malfaiteurs, jugé par des instances civiles, dans les droits communs. S'il n'est pas militaire qui a porté les armes. Si c'est un civil qui a porté des armes, il est jugé par les juridictions civiles. Si c'est un militaire qui a fourni des armes et des munitions à cette bande de malfaiteurs, il sera jugé par les juridictions militaires. Il pourra être poursuivi par association de malfaiteurs, dissipation des munitions, abandon des postes et autres infractions qu'on pourra retenir à sa charge. Ce sont des peines lourdes.
D'accord.
Mais il faut savoir dénoncer. On ne les dénonce pas. Ça fait longtemps que les gens disent les militaires opèrent, les opérations opèrent, mais on ne les dénonce pas.
D'accord. Kibanza nous appelle de Kavumu, au sud Kivu. Bonjour Kibanza.
Bonjour.
Quelle est votre question? Quelle est votre question par rapport à ce thème?
Grand merci, les journalistes. Je profite de cette même occasion pour saluer mes connaissances et surtout la radio Capi.
Merci. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Moi, ma préoccupation est la suivante. Le dossier Kuluna à Kinshasa a fait beaucoup de mal. Je vous donne comme référence. Mon fils, en sortant du mariage, il a été victime d'un groupe d'amis qui l'ont accueilli dans sa porte où il est locateur. Vous allez m'excuser, monsieur le journaliste, et notre auditeur qui est à votre côté,
l'invité. Il
me suit avec beaucoup d'intérêt. Ce jeune garçon, nouvellement marié, il est pris à l'assaut par des gens inconnus, on lui a ravi tout ce qu'il avait reçu comme le cadeau de mariage, et tout se porte à pareil. Mais quand vous nous dites que les Kuluna doivent aussi bénéficier de l'innocence, hein, s'il faut récupérer le vocabulaire de notre invité, parce que les soupçons, il faut qu'il ait culpabilité. Alors, ma dernière question est la suivante. De cet acte où mon fils a été victime, il faut le qualifier où?
Voilà, merci. Son fils son fils a été attaqué le jour de son mariage devant la maison par des Kuluna qui ont tout ravi. Tous les cadeaux sont partis et même les téléphones. Alors comment qualifier, il vous demande comment qualifier cet acte-là?
Oui, mais il faudrait d'abord savoir, ils étaient, prenons que ça a été deux. Est-ce qu'en étant deux, c'est une association de malfaiteurs? Puisque l'association de malfaiteurs doit s'assigner d'abord une mission. On ne sait pas. Est-ce que c'est de manière isolée, spontanée, qui se sont improvisés, sont introduits pour avis? Là, nous parlons de l'extorsion. Ils ont extorqué tous les biens que son fils détenait, les cadeaux de mariage, tout ce qu'ils avaient, à l'issue des menaces. Je dois savoir qu'ils étaient armés, c'est-à-dire, ils avaient
des armes blanches. Généralement, ils ont des machettes.
Voilà. Mmh. Ils ont menacé.
On vous menace, si vous ne donnez pas, je vous coupe la tête.
Voilà, et son fils a remis. Ça entre dans les cadres de l'extorsion. Et à ce moment-là, son fils doit que saisir la police la plus proche, aller voir les cabinets de l'avocat, aller saisir les parquets.
Bon, alors, est-ce qu'il n'y a pas deux infractions qui vont en même temps? Association des malfaiteurs aussi?
Oui, ça peut. Non, pas association des malfaiteurs.
S'ils étaient plusieurs...
Ils peuvent être plusieurs, mais sans former l'association. Il faut être premier, nombreux, ils se retrouvent comme ça, ils vont opérer. L'association, il faut d'abord une concertation, il faut former une bande, il faut qu'il y ait un directeur, un chef... Il faut être, chacun a un rôle au sein de la bande. Mais quand c'est de par exemple, c'est de ceci, de telle commune, de telle qui se retrouve hasardement, ou demain, ils n'auront pas le temps de se retrouver pour opérer, on ne va pas parler d'une bande. Et à ce moment-là, il a parlé de présomption d'innocence. Il dit qu'il refuse qu'on puisse pas dire que ces gens, non, ils ont le principe, ils courent le principe, ils jouissent du principe d'innocence, puisqu'il n'y a que la justice qui établit la culpabilité. Il n'y a que le tribunal. Il n'y a que le tribunal qui établit la culpabilité de tous ces gens qui ont opéré là. Lorsqu'on les amène au tribunal, vous verrez qu'il y a un qui peut s'en sortir avec 10 ans de prison, l'autre avec 6 mois, l'autre blanchi. Donc c'est pour ça qu'on doit invoquer toujours le principe d'innocence, puisque c'est le tribunal qui juge en vertu des éléments que le tribunal aura disposé, des témoignages et des preuves qu'on aura apportées. Donc il ne faudrait pas dire qu'on ne peut pas invoquer, on doit invoquer le principe d'innocence. Alors c'est ça, son enfant, il a subi l'extorsion. On a tout confisqué.
Oui, généralement, quand c'est elle
qui l'a raconté, oui. Là, c'est de l'extorsion.
Généralement, quand des faits comme ça arrivent, souvent, les gens sont découragés, ils se disent, ah, on sait que ça ne va pas aboutir, même si je vais accuser à la police, le lendemain, on va les lâcher, on va les relâcher.
Tout à fait, ils ont raison.
Les gens sont découragés, ils vont pas se plaindre.
Ils ont tout à fait raison, vous savez, notre justice, on cesse de les dire, c'est une justice à deux vitesses, on cesse de les dire. Même nous qui sommes des avocats qui connaissons où va la justice, nous sommes souvent des victimes. Nous sommes victimes de cette justice. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous ne devez pas croiser les bras.
Faut-il baisser les bras?
Non, il ne faut pas baisser les bras parce que ça va aller. Non, il y a aussi des cas que la justice châtie sévèrement. Il y a aussi des cas qui trouvent des condamnations en justice. Il ne faut pas refuser d'aller. Il faut toujours aller. Et tôt ou tard, un jour ou un autre, vous pourrez vous faire justice.
Et quelle est la procédure pour porter plainte?
La plainte, je l'ai toujours dit. C'est pas la première fois que vous posez cette question. Voilà. La plainte, dès que vous avez la police à côté, mais quelqu'un vous injure, quelqu'un vous a tapé, quelqu'un vous a fait telle ou telle
toujours
chose,
important de rappeler.
Allez vite à la police la plus proche. Saisissez le commandant. Malheureusement, je sais que le commandant, il va chercher à faire des choses, alors que le commandant, son rôle, c'est de rechercher des informations.
Il va vous entendre sur PV.
Oui, il doit vous attendre, oui. Il doit vous attendre, puisqu'il doit donner le rapport à son chef. Le chef de l'OPJ, c'est l'officier du ministère public, le magistrat du parquet. Et alors, il va remettre les dossiers là-bas. Les magistrats, lui, quant à lui, il va enrichir, il va continuer, il va approfondir les recherches de cette infraction-là. L'OPJ aura retenu peut-être une infraction, le ministère public aura la vérifiée, et quand le ministère public vérifie modifie l'appellation de cette infraction-là, il va soumettre le dossier au tribunal. Et le tribunal n'est pas tenu par la qualification du ministère public ni de l'OPJ. Au tribunal, on peut retenir notre qualification de notre infraction. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours aller, il ne faut pas se sentir la victime résignée pour dire non, mais celui-là qui est parti, non. On arrive toujours à faire quelque chose, parce que celui qui vous tape là, il sait que, celui qui vous a confisqué les biens, il sait que là où ils sont restés, ils sont tentés de me chercher, ils sont allés m'accuser. Donc il connaît au moins que la justice existe. Donc il faut effectivement aller avec cette justice et aller avec des agents jusque lui à sa poursuite. Peut-être qu'on peut mettre la main sur lui, peut-être qu'il peut s'échapper.
Voilà, donc il faut pas se décourager.
Il faut toujours aller. Et le plus souvent, il faut toujours aller dans des cabinets d'avocats, parce que les avocats savent, ce sont des techniciens, ils savent comment se prendre. Et dans un dossier, quand on apprend qu'il y a un avocat, il y a un peu du sérieux, et le magistrat, et les OPJ, et le juge, ils se rendent compte qu'il y a quand même un avocat dans ce dossier. On essaie un peu de les traiter avec efficacité et avec diligence.
Alors lorsqu'on va se plaindre à la police, est-ce que directement, on va envoyer les éléments pour aller rechercher ces bandits?
Oui. Mais quand vous déposez à la police doit vous accompagner. Quand vous déposez immédiatement, il suffit même pas d'écrire. Il suffit seulement de dénoncer, je suis victime, on vient de me taper, on est en train de taper ma femme, mes enfants, tout ça. On vous donne les éléments, ils viennent, ils neutralisent les autres, on les amène à la police. À la police, les commandants procèdent, l'OPJ procède déjà à leur audition sur PV. Et si les faits sont graves, il a 48 heures pour les garder au cachot. La loi lui donne 48 heures. Lorsque 48 heures, il est au cachot. Après 48 heures, il doit l'acheminer au parquet. Le parquet a 5 jours pour garder au cachot avant de l'amener en prison de Makala ou d'autres prisons.
Voilà, nous avons en ligne Manda de Kalemi. Bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Bonjour, monsieur le journaliste, c'est Manda Salom de Kalemi.
Quelle est votre préoccupation, Manda?
Oui, en fait, je viens de suivre l'invité au plateau. Il a bien expliqué les phénomènes que l'on a. Mais à Kalemi, nous avons aussi quelques phénomènes ici, des bandits ou soit des cambrioleurs qui attaquent tout le temps les gens dans leur maison. Mais il semblerait que il y a des gens qui ont en fait monté, en fait utilisé, ils se sont mobilisés pour un phénomène comme ça on appelle la rondo, donc ils luttent contre les voleurs, ici à Kalemi. Mais il semblerait par ailleurs que il y a des autorités civiles, ou soit qui qui cherchent à anéantir ces mouvements, pendant que ces mouvements aident la population à lutter contre ces voleurs. En fait, la population reste paisiblement dans leur maison. Alors, il y a une question que j'aimerais poser à l'invité au plateau. À partir du moment où Manda est attaqué dans une maison, qui reste paisiblement avec ses enfants, il y a un voleur qui arrive dans sa maison avec une arme, et Manda utilise une légitime de défense. Alors, par ailleurs, Manda arrive même à tuer les voleurs. Qui prévoit la loi à cette personne?
D'accord. Merci, Alphonse. Depuis Ngbokolo, bonjour. Et quelle est votre question?
Bonjour, je dis bonjour aussi à Samuel Abaki, qui est le capitaine direct d'Ngbokolo. Merci beaucoup. J'ai quelques questions, quatre questions à vous poser, monsieur Jody. La première question, c'est, par exemple, pendant certaines manifestations des partis politiques, il y a quelques qui cassent, qui tabassent, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut considérer ça aussi comme une sorte de banditisme? La première question. La deuxième, est-ce qu'on peut parler de banditisme quand ce sont des mineurs qui agressent, par exemple, et qui extorquent les biens de la population? Une troisième question, qu'est-ce qui est à la base exactement du banditisme? Une question, le banditisme se développe plus et surtout en grande ville. Merci beaucoup, je dis bonne année 2007.
Merci, Alphonse, depuis Ngbokolo, Maître Zakaï.
Oui, pour Manda, il parle de l'estime et de défense, il est chez lui, il va voir un voleur entrer avec une arme, mais lui arrive à l'abattre. Tout à fait normal. Vous vous êtes défendu. Il faut qu'il ait une arme et que vous l'avez abattu avec une machette, ça s'appelle l'estime et défense. Mais si lui vient avec une machette et que vous, par exemple un couteau et vous l'abattez, ça c'est pas une légitime défense, ça c'est une utilisation d'une force disproportionnée. Vous auriez pu le maîtriser avec son couteau autrement et vous en saisir avec votre famille, l'amener, l'acheminer devant les cours de tribunaux. Mais s'il vient avec l'arme et que vous arrivez avec votre machette à l'éliminer, c'est une légitime défense. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous appréhender, parce que légitime défense, vous devez l'invoquer quelque part. Les autorités ne viendront pas le matin et dire ah, comment il avait l'arme, légitime défense est resté chez vous. Non. Même pour votre propre sécurité, on doit d'abord vous prendre. Vous devez aller être quelque part parce que sa famille peut venir aussi se venger. Mmh. Donc, on n'appelle pas cela arrestation. On vous met quelque part pour votre sécurité et on trouve que c'est légitime défense. Et la légitime défense, c'est le tribunal qui doit qualifier. C'est pas un individu. Ce n'est pas vous. On doit faire des enquêtes. On doit vérifier effectivement que est-ce que cette arme était est-ce que l'arme avait des munitions? Est-ce que, par quel, dans quelles circonstances vous l'avez reçu à l'abattre? Vous auriez peut-être l'appréhendé vivant. Mmh. Malgré cette arme, vous l'avez déjà mobilisée. Et dès que vous le mobilisez avec une arme, vous ne devez pas le tuer. Vous devez l'amener en justice. Mais vous l'avez appréhendé et puis vous tuez par la suite. Ça, c'est une infraction. Mais si vous l'avez tué, pendant qu'il cherchait à entrer dans la maison, sans savoir ce qu'il était dans la maison, c'est une légitime défense. C'est une très bonne chose. Et la justice va vous blanchir et vous allez retourner. C'est comme la pendaison. Et comme que dis-je, c'est comme quand quelqu'un se suicide. On vient d'abord vous ramasser, mais on tombe. Quand il s'est suicidé, c'est pas une infraction. On ne veut pas arrêter personne.
Voilà. Alors, il y a Alphonse dit, lors d'une manifestation d'un parti politique, il y a des jeunes gens de Kuluna qui se mettent à tabasser ou à arracher les téléphones dans cette confusion-là. Est-ce qu'on peut qualifier cela de banditisme ou disons, quelle est l'infraction qu'on peut...
Mais c'est un comportement incivique, c'est un comportement anti-la loi. Oui, nous rentrons dans ce que nous venons de définir. Oui. Extorsion, bande de malfaiteurs, coups et blessures volontaires, nous rentrons dans toutes ces infractions-là. Oui. On va les juger, on va voir. Mais ici, les auditeurs, ils disent des choses de manière générale. Mais quand on va les juger, on va pénétrer dans l'essentiel pour savoir qui a fait quoi, qui a dit. Parce que nous pouvons être à 20. Nous tabassons quelqu'un, peut-être que 4 ne l'ont même pas touché. Mais nous tous, on se dit, ils ont tapé. Mmh. C'est au moment de fait, au moment du jugement, qu'on va savoir qui a fait quoi et qui a dit quoi et qui a commis l'infraction. Mmh. Donc, de manière générale, ils doivent être appréhendés. Ce sont des infractions qu'ils ont commises. Qu'est-ce qu'il est à la base? Pardon?
Oui, si, il veut savoir si ce sont les mineurs qui font le Kuluna. Alors,
non, mais les mineurs.
On parler de banditisme urbain toujours?
Non,
parce qu'il s'agit des mineurs.
Non, si c'est un petit enfant de 10 ans, vous dites qu'il vous a menacé, c'est faux.
Non, des jeunes gens, peut-être de 16 ans,
mais ça, là,
de 14 ans avec des armes blanches.
Non, ils ont menacé. parce qu'il peut tirer.
Oui.
Hein, tu ne sais pas ce qu'il fait de l'arme. Nous avons vu des Kadogo qui maniait l'arme. Il peut tirer. S'il est armé, il n'est plus encore mineur. Il a l'arme vraiment. Il peut vous faire du mal. Mais si c'est main à main comme ça, main nuit, un enfant de 10 ans, 11 ans, vous, un peu, papa, vous dites non, on vous a menacé. Ça ne peut pas tenir. C'est pas un élément qu'on peut retenir pour cette infraction-là. Alors, il a dit que qu'est-ce qui est à la base? Mais la base, c'est beaucoup de problèmes.
Chômage, pas, la pauvreté.
Non, je ne voudrais pas entrer à.
Rachel nous a écrit, il s'agit de, d'après elle, c'est une gangrène et qui à la base on retrouve la pauvreté, le chômage.
Tout à fait. Je m'interdis de les évoquer.
Oui.
Je m'interdis de les évoquer en tant que politique. Je suis politicien aussi. Je ne voudrais pas, sinon on va prendre ça dans la connotation de l'homme politique.
D'accord.
Mais en tant que juriste, tous ces éléments qu'on vient d'énumérer, ça entre en ligne de compte. Quand quelqu'un ne travaille pas, il est très dangereux. C'est comme quelqu'un qui n'a pas d'en manger, il est très dangereux. Vous n'allez pas mettre votre paquet d'argent à côté de quelqu'un qui est affamé. Et vous n'allez pas donc il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte.
Il y a aussi le manque d'encadrement.
Manque d'encadrement, la faiblesse de notre justice, la faiblesse, manque de il y a aussi impunité, il manque de morale, manque de civisme, manque d'éducation politique, d'éducation civique. Tous sont des éléments qui concourent à ce que nous puissions arriver à cette situation. Mais la situation de Kounouna, c'est plus situation de ventre qu'une autre situation.
Alors pour mettre fin à ce phénomène, vous avez dit...
Il faut que la justice soit forte.
Il faut dénoncer d'abord.
Non, d'abord il faut que la justice soit forte. Venez de dire ici qu'il y a des gangs qu'on dénonce et que les gens sont découragés par la suite. On l'arrête aujourd'hui, demain il sort. Je connais beaucoup de cas. On l'arrête aujourd'hui, nous avons fait des cas. On arrête quelqu'un, on l'amène à Makala, on l'amène à Makala, une semaine après, un mois après, deux mois après, il est là, il vous voit, il vient même vous saluer. Et vous, sans vous rendre compte,
que c'était lui. Vous menacer encore.
Il vient encore vous menacer, on les rattrape et on les retourne encore. Suivez les commissariats. Nos commissariats, ils disent ça, que nous arrêtons, nous, la police, nous faisons notre travail. Mais quand nous amenons à qui des droits, demain, vous trouvez les mêmes messieurs, ils rentrent dans les mêmes quartiers. Même la police est fatiguée de ce phénomène-là. Donc, ça veut dire que la justice est très, très faible, qu'il n'y a pas la sanction, et la sanction se fait manifester dans tous les niveaux de notre vie, dans tous les appartements, dans tous les comportements de notre vie. Qu'il s'agisse au travail, vous allez trouver des couloirs à cravate. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Luzolo Bambi. Il était ministre de la Justice. Il a dit des gens qui détournent impunément des fonds colossaux pour la République. Et ils sont là, ils sont inquiétés. Il y a des immeubles qui poussent comme des champignons. Aucune justice ne les dit. Et vous allez voir que le procureur
général,
il va sauter que sur les opposants.
La justice, vous dites que la justice doit être forte.
Elle doit être forte. Ouais. Elle doit élever la nation.
Et la population
elle est
aussi.
Personnelle. Elle est sans couleur.
La population aussi doit apprendre à porter plainte.
Les populations portent plainte. Il n'est pas dit nécessaire. Seulement qu'on doit porter plainte. On doit même dénoncer aussi.
On doit dénoncer.
Et il a dit aussi qu'on doit trouver des cas de flagrance. Il y en a combien qu'on vit dans cette ville? Or, cette ville, on vivrait des flagrances au jour le jour.
Mais à un moment donné, ces phénomènes avaient pris fin. On a l'impression qu'ils commencent encore à...
Oui, mais c'est, nous avons eu, il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. Nous avons eu Luzolo Bambi, qui a été un peu efficace, mais qui n'a pas été soutenu par ses collègues du gouvernement. Luzolo Bambi a été un peu efficace.
Non, moi, je ne parle pas des Kulunas dans les milieux politiques, mais des Kulunas dans nos quartiers.
Non, je parle pas des milieux politiques. Je parle des Kulunas dans les quartiers.
Oui.
Vous avez vu qu'on a déplacé des tribunaux à proximité de la population. Là, au fait, en fait, Luzolo a déplacé les principes militaires. Parce que dans les militaires, on dit, le policier, les militaires qui a commis l'infraction, les témoins qui ont vu l'infraction doivent voir aussi les châtiments de ces militaires. C'est un principe sacro-saint dans l'armée. Alors, aujourd'hui, maintenant, Luzolo.
Il y a eu des procès comme ça.
Voilà, Luzolo a compris. Il a mis à proximité les tribunaux vers les gens qui étaient tabassés par les Kulunas. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et les Kulunas et Luzolo Bambi ont été abandonnés par leurs collègues du gouvernement. On n'a pas senti vraiment que Kulunas et Luzolo Bambi étaient soutenus par les autres membres du gouvernement.
D'accord.
Il a été délaissé pour compte pour lui-même.
Merci, Maître
Zakari. Ça n'a pas bien marché.
Merci, on n'a plus assez de temps. Maître Zakari Kenda Bingu Mulangala, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation pour participer à toute cette première émission au Capi Service de l'année 2017.
C'est moi qui vous remercie très sincèrement. Merci à tous les auditeurs qui ont collaboré avec nous pour cette première émission. Je vous remercie sincèrement pour cet honneur que vous m'avez fait ce jour et je suis très reconnaissant. Je dis merci.